Allez, reprenez vos places, les midis continuent. Tout à l'heure, à 13h, je recevrai l'autrice Alison Bechdel. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Faut-il réécrire les classiques? En voilà une question qui ne cesse d'alimenter le débat littéraire. Accusé par certains de dénaturer les chefs-d'œuvre, les réécritures font pourtant partie de la vie des œuvres, et ce, à l'origine même de leur création. Tiphaine Samoyau, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes directrice de recherche à l'EHESS et feuilletoniste pour Le Monde des Livres. Votre dernier ouvrage, Toutes sortes de misérables, paraît cette semaine aux éditions du Seuil. Et sur un bandeau qui recouvre le livre, on peut lire cette accroche. Faut-il réécrire les classiques? Alors c'est une question sensible qui a beaucoup fait débat ces dernières années. Vous choisissez dans ce livre la voie du milieu, celle de la nuance, on va en parler. Mais peut-être pour commencer, pourquoi avoir choisi Les Misérables, l'œuvre de Victor Hugo, comme point d'ancrage pour votre démonstration?
Alors pour deux raisons. D'abord parce que c'est un texte que nous sommes beaucoup à travers le monde à avoir en partage et que ce partage, il repose sur des voies d'accès très très diverses à l'œuvre, puisque certains le connaissent par la comédie musicale, d'autres pour l'avoir lu dans une édition abrégée, d'autres pour l'avoir lu en traduction, d'autres pour avoir vu un film, un des innombrables films ou séries qui ont été produits à partir de cette œuvre. Donc c'est cette diversité d'accès à une œuvre qui m'intéressait. Moi-même, j'ai lu Les Misérables d'abord dans une édition abrégée pour enfants et j'en garde un souvenir absolument ébloui. Et donc c'est cette diversité de voies d'accès qui m'intéressait et qui me faisait répondre d'emblée à la question « faut-il réécrire les classiques ?» par le fait que les classiques sont tels parce que ils sont réécrits. Et que un classique ne devient un classique que parce que il fait l'objet de multiples variantes, versions, réécritures et réappropriations. Donc d'une certaine façon, avec cet exemple, je réponds d'emblée à la question « faut-il réécrire les classiques ?»
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous expliquez que Hugo lui-même a pratiqué la réécriture.
C'est-à-dire que Hugo a eu une très longue gestation dans son œuvre, mais a compris très vite que cette œuvre, une fois qu'elle était écrite, elle appartenait à tous. Et c'est aussi sans doute le côté très démocratique et émancipateur de ce texte, Les Misérables, qui est un texte qui se veut inclusif d'un peuple, d'une langue qui ne se trouvait pas avant dans la littérature. Et une fois que le texte est publié, eh bien il accepte qu'il soit charcuté, adapté dans des comédies musicales déjà de son vivant, puisque c'est son fils qui s'en charge, illustré. On sait qu'il y a quantité de produits dérivés des Misérables qui interviennent dès le vivant de Hugo.
Est-ce que vous comprenez quand même, Tiphaine Samoyau, que certains s'émeuvent devant justement ces versions abrégées ou bien devant tout le marketing que l'on peut déployer autour de ces œuvres, puisqu'on est sur Les Misérables? Je pense notamment à l'histoire du poche chez Gallimard, où l'on pouvait voir apparaître un bandeau avec écrit dessus Les Misérables de Victor Hugo d'après la comédie musicale. Est-ce que vous comprenez l'émoi autour de ces événements-là?
Oui, je le comprends. Je comprends qu'on est dans une société où on essaye de faire commerce de tout et parfois par des moyens tout à fait contestables. Après, j'essaye d'apporter de la nuance en montrant que on ne peut pas empêcher ces réécritures et qu'elles sont même nécessaires, ne serait-ce que pour continuer à faire vivre l'œuvre et pour le donner accès à l'œuvre, par exemple à des publics jeunes ou il y a les adaptations pour enfants, c'est presque, ça existe depuis que le livre existe et c'est ce que je montre dans le livre. C'est comme ça que je veux apporter de la nuance, c'est-à-dire en montrant que ça a toujours été fait et que la connaissance de cela permet de porter un regard critique justement sur ces réécritures, parce que toutes ne se valent pas. Et c'est pour ça que je comprends l'émoi. Il y a des réécritures qui sont faites pour des raisons purement mercantiles. En revanche, ce que je montre, et là-dessus je voudrais attirer l'attention sur ce point, c'est que d'une certaine manière, toute réécriture, toute adaptation se fait au nom d'une certaine idéologie, au nom d'une certaine manière de vouloir transmettre une idée de l'œuvre. Et donc, ce que je veux apporter, c'est la manière de pouvoir apporter un regard critique sur ces idéologies et qu'elles ne se valent pas toutes.
Ce que vous dites aussi, c'est que la réécriture est l'inverse de l'annulation, justement parce qu'elle implique la mémoire et que donc finalement l'œuvre originale reste cachée quelque part. Est-ce que pour vous, la réécriture, Tiphaine Samoyau, ça reste de la littérature ?
Absolument. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est aussi que en aucun cas une réécriture ne remplace l'original. Ce qu'on voit quand on travaille sur la vie des œuvres dans la durée, moi, c'est ce que je fais avec Les Misérables, mais je le fais aussi avec des textes plus anciens, Shakespeare et d'autres, c'est que jamais les réécritures n'ont remplacé l'original. Et ça, je crois que c'est une peur un peu panique de notre époque qui est une peur sur laquelle, justement, je voudrais apporter des contradictions, si vous voulez, ou peut-être des réparations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplacement. Au contraire, ces œuvres continuent à vivre par le fait même qu'elles sont réécrites.
Oui, parce que dans ce livre, ce que vous défendez, c'est la vitalité finalement de la littérature, et les réécritures ou les adaptations sont aussi une façon de la constater, cette vie de la littérature.
Une œuvre vivante, c'est une œuvre changeante. Et en réalité, on peut avoir des lectures très très différentes d'une époque à l'autre, d'une même œuvre. C'est pour ça qu'à la fin du livre, je prends l'exemple de Lolita de Nabokov, parce qu'en 50 ans, on a eu des lectures radicalement différentes de cette œuvre, sans pour autant que sa lettre ou son original ait changé. Pendant très longtemps, on en a fait une sorte d'œuvre de l'amour libre et subversif. Et aujourd'hui, on en fait un manifeste contre la pédocriminalité. Et ces deux programmes de lecture radicalement différents ont pu se succéder en quelques années. Et indépendamment aussi de la volonté de l'auteur et de ce que l'auteur a vraiment voulu dire, puisque on sait très bien, Nabokov l'a dit et répété, qu'il ne voulait en aucun cas de la première lecture. Et pourtant, cette première lecture, elle a été très vivante. Donc pour moi, les réécritures, ce ne sont que des témoins de la façon dont différentes époques peuvent s'approprier un livre, et aussi de la potentialité de la littérature à porter plusieurs interprétations et à pouvoir être appropriée par des groupes de personnes et des époques très différentes.
Vous écrivez, Tiphaine Samoyau, et ce dès l'avant-propos, je vous cite, « Il est possible d'affirmer que toute culture est à sa manière une cancel culture ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire que elle est une cancel culture si on s'intéresse uniquement à la potentialité d'oubli des cultures. C'est-à-dire que toutes les cultures retiennent des œuvres, des monuments, du passé, ce qu'elle a envie de mettre en évidence. Et en mettant en évidence une mémoire du passé, forcément, on occulte une autre part de ce passé. Mais il faut évidemment penser que cette dialectique entre mémoire et oubli est ce qui définit une culture. Donc évidemment, quand je dis ça, c'est un peu par provocation. C'est pour dire qu'il y a toujours une petite part d'annulation dans la valorisation de tel ou tel aspect du passé. C'est le fonctionnement ordinaire de la mémoire. De la mémoire individuelle comme de la mémoire collective.
Bien, merci beaucoup Tiphaine Samoyau. Je rappelle donc que votre dernier ouvrage, Toutes sortes de misérables, paraît demain aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, Mathieu Poitevin, architecte marseillais suspendu de son poste d'enseignant.
L'architecte, à l'origine notamment de la friche de la Belle de Mai, a été suspendu à titre conservatoire de son poste de professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Une plainte et plusieurs signalements ont été lancés depuis 7 ans dans diverses écoles d'architecture, alertant sur des violences sexistes ou sexuelles, ainsi que sur des propos homophobes et racistes. Le ministère de la Culture a diligenté une enquête interne.
Le consulat de Chine à Strasbourg demande la déprogrammation d'une pièce de théâtre sur Taïwan.
Ceci n'est pas une ambassade. Made in Taiwan, c'est le nom de la pièce de Stéphane Kaegi, membre du collectif suisse-allemand Rimini Protocol, qui était programmée au Maillon dans le cadre du temps fort Démocratie en jeu. La maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, a reçu une lettre du consulat indiquant que cette pièce, je cite, pose un problème dans l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. La maire de Strasbourg dénonce une intervention extrêmement grave et assure que la pièce restera bien au programme du théâtre.
Et pour finir, Marie, le festival de documentaire Best of Doc commence aujourd'hui.
Oui, Best of Doc est un festival itinérant dans plus de 60 salles de cinéma en France qui rassemble 10 des meilleurs films documentaires sortis l'année précédente. Le documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, éclairé par le visage de la photographe palestinienne Fatma Hassona, tuée en avril 2025 lors d'une attaque israélienne, ouvre la manifestation ce soir à Paris en présence de la réalisatrice. Et dans la sélection de cette 6e édition, on retrouve également Peaches Goes Bananas de Marie Lozier, Tardes des Soledades d'Albert Serra ou encore Soundtrack pour un coup d'État de Joanne Gribonpré.
Merci Marie, on se retrouve demain.
Mais oui, à demain.
À demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est bientôt 13h et vous écoutez France Culture, vous avez raison.